9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Mercredi s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre, le plus grand procès jamais organisé en France. Antoine Mégy est mon premier invité. Ses recherches portent sur la place du droit dans la lutte contre le terrorisme en France. À ce titre, il a assisté à plus de 150 procès de terroristes. Il va nous expliquer en quoi celui-ci sera exceptionnel. Je recevrai ensuite l'écrivain et philosophe Gaspard Koenig. Il a passé 5 mois sur un cheval à refaire le voyage de Montaigne en 1580. À travers la France, l'Allemagne et l'Italie. Il en est revenu transformé. Et l'on terminera l'émission avec Georges Brassens, dont ce sera bientôt le 100e anniversaire de la naissance et le 40e anniversaire de la mort. Marilyn Martin sort un livre sur sa vie amoureuse qui était aussi originale qu'il l'était lui-même.
Europe 1.
Bonjour Antoine Mégy.
Bonjour.
Jamais un procès n'avait touché un si grand nombre de personnes, autant de victimes directes et indirectes, mais aussi toute la société française. Au fond, le procès des attentats du 13 novembre, l'un des témoins sera l'ancien président de la République, François Hollande. Ça, c'est exceptionnel, non ?
C'est une dimension exceptionnelle de ce procès, comme d'autres. C'est un procès qui est construit aujourd'hui comme un procès historique, à la fois par les autorités judiciaires, mais aussi d'une certaine manière par l'importance que la parole des victimes prend dans l'opinion publique, et encore plus depuis quelques jours et en préparation de l'ouverture de ce procès. C'est un procès historique, mais qui s'inscrit dans une histoire plus longue, en tout cas plus contemporaine, et c'est une histoire qui commence notamment en 2015, car il y a toute une série de procès qui existent et qui aujourd'hui participent à la forme de ce procès que l'on appelle un procès exceptionnel.
Alors tout le monde insiste sur cette vaste salle d'audience qui a été construite de toutes pièces dans le grand hall de l'ancien palais de justice de Paris. Elle était vraiment nécessaire ?
En tout cas, elle apparaissait nécessaire pour les acteurs qui ont préparé ce procès. Là, on est aussi dans une tradition de la justice, le décorum, l'importance du rituel, l'importance de l'espace de la justice. On le voit ici dans cette salle de 550 places, la place des victimes, des parties civiles, comme on va les appeler durant tout le cours de l'audience. La place de ces parties civiles a conduit effectivement les autorités judiciaires à repenser et à intégrer une grande modernité dans un palais très ancien, celui du palais de justice de Paris, de la cour d'appel.
Alors ça va être filmé par 10 caméras. Les audiences seront retransmises dans 14 salles annexes, des salles dédiées aux journalistes. Il y aura plus de 140 médias qui ont été accrédités, dont 58 étrangers. Salles également dédiées aux parties civiles, qui sont très nombreuses, on va le voir, et au public. Évidemment, il y a également une web radio. Ça, c'est nouveau.
Alors là, c'est vraiment une innovation qui a été introduite et qui vient en fait transformer un petit peu l'espace de l'audience du procès. On construit une salle monumentale et pour autant, on diffuse aussi une part de ce procès via une web radio qui n'est réservée que aux parties civiles. Il y a une restriction par rapport à la diffusion de la web radio. Il y a aussi une restriction par rapport au film. C'est-à-dire qu'on parle d'un procès historique, ça a des conséquences. C'est parce qu'il est filmé pour l'histoire. Donc il y a un film qui va être produit à la fin de ces 8 mois, mais ce film, il est enregistré et ensuite on verra ce qu'on en fait par rapport au...
Comme le procès Barbie, le procès Touvier, le procès Papon.
Effectivement, c'est une qualification depuis la loi Badinter de 1985 qui définit les procès qu'on considère pour l'histoire et dont on va filmer concrètement pendant toutes
les audiences. Je reviens sur cette web radio, vous dites qu'elle est réservée aux parties civiles, ça va leur permettre d'écouter les débats chez eux, c'est ça ? C'est-à-dire que chez eux, que ce soit en France ou à l'étranger, parmi les parties civiles, il y a 23 nationalités, je crois, enfin parmi les victimes.
On a un nombre très important de parties civiles, des nationalités différentes, on a aussi des réactions à ce que peut être la venue dans un procès. Il y a aussi des contraintes d'ordre technique. Faire venir autant de parties civiles, c'est très compliqué. Et certaines parties civiles ne veulent pas forcément toujours venir à l'audience. Il y a donc cette volonté, en fait, de résoudre les problématiques autour des parties civiles.
Les 20 accusés, puisqu'ils sont 20, cette fois, il y a... Ah non, Restons sur les parties civiles d'abord, pardonnez-moi, je passe un peu vite. Entre le Stade de France, le Bataclan et les cafés du 11e arrondissement, les terroristes ont fait ce jour-là 130 morts, 350 blessés. Cela fait 1800 parties civiles, soit à peu près 300 avocats pour représenter les victimes, leurs familles et leurs proches. Je rappelle que c'était les attentats les plus meurtriers ayant été perpétrés sur le territoire français. Ça ne s'était jamais vu, autant de parties civiles. Il y en avait très nombreuses lors du procès des attentats de Charlie Hebdo.
Alors, il y avait beaucoup de parties civiles lors des attentats de... Alors, on va dire des attentats de janvier 2015. Il y a un vrai enjeu sur l'appellation même, y compris pour les parties civiles. C'est pour ça que j'insiste dessus. On parle du procès des attentats du 13 novembre parce qu'il y a, comme vous l'avez très bien dit, une multitude d'endroits qui ont été touchés et donc de types de victimes différentes. Donc, effectivement, on a un groupe très important. Ensuite, il y a eu l'attentat de Nice qui a aussi produit énormément de victimes. Donc on est sur des attentats qu'on va qualifier des attentats de masse et qui conduisent alors à 1800 parties civiles. Mais on peut avoir, au cours du procès, de nouvelles parties civiles qui vont se constituer. Donc ce groupe de 1800 parties civiles, il peut encore grandir. Et donc c'est effectivement quelque chose qui est très important dans l'organisation du procès et dans sa tenue qui va avoir lieu.
Alors justement, je disais, vous avez assisté à plus de 150 procès de terroristes. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense des procès de terroristes en France, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais ils changent. On avait les procès des djihadistes partis pour l'Irak et la Syrie, par exemple. Il y en a eu plusieurs. Là, il y avait rarement des victimes qui étaient présentes. Là, ce procès, c'est véritablement, on a l'impression que tout va tourner autour des victimes.
Il va y avoir, effectivement, en tout cas pendant les premiers mois, une sorte de renversement du procès autour de la figure des victimes, alors que par définition, dans le droit pénal classique, le procès, c'est celui de l'accusé. Donc là, effectivement, il y a cette transformation. Maintenant, on a des personnes qui sont dans les box, qui sont présumées coupables, accusés pour association de malfaiteurs terroristes. Il va y avoir des semaines, des mois qui vont être consacrés à leur parcours. On a des personnes qui sont largement intégrées dans ce qu'on a appelé les cellules du 13 novembre. Et donc, on ne peut pas le savoir tout de suite, mais effectivement, je pense qu'il y aura aussi une forte médiatisation autour de cette figure des djihadistes.
Sachant que parmi les 20 accusés, il y a parmi eux l'un des 10 membres du commando, ce qui n'était pas le cas pour le procès des assassins de Charlie Hebdo. Il s'appelle Salah Abdeslam. Ça change quelque chose aussi qu'il y ait un membre du commando pour la première fois, en tout cas si on s'en réfère aux attentats depuis 2015.
Si on veut avoir un peu une référence, si on parle du procès des attentats de Toulouse de Mohamed Merah, il n'y avait pas l'auteur principal. La même chose pour les attentats de janvier 2015, avec notamment le journal Charlie Hebdo. Là, effectivement, on aura une personne du commando, mais on aura aussi d'autres personnes dans le box. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit un groupe aujourd'hui dans le box avec ses accusés, et puis Salah Abdeslam. Mais au cours des mois du procès, on va avoir des personnes et d'autres acteurs ont un rôle extrêmement important, notamment dans les attentats à la fois en France, mais aussi en Belgique. Donc il y a une multitude d'accusés qui auront également des intérêts pour la société.
On fait une pause, Antoine Mégy, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Antoine Mégy qui sera au procès le plus grand jamais organisé en France, le procès des attentats du 13 novembre qui débute mercredi dans l'ancien palais de justice de Paris. Il y aura dans cette nouvelle salle construite pour l'occasion 14 accusés dans le box derrière une vitre. 6 d'entre eux, il y a beaucoup de chances qu'ils soient morts. Alors, je vous dis une bêtise, c'est 6 de plus parce qu'ils sont 20. Il y en a 6 qui ne seront pas là. Il y a beaucoup de chances qu'ils soient morts.
Effectivement, il y a cette figure aussi dans le box. On a la figure de Salah Abdeslam, on a la figure des organisateurs et puis on a la figure de ceux qu'on va appeler les présumés morts. Parce que s'ils étaient vraiment morts, on ne pourrait pas les poursuivre et donc les condamner. Il y a donc cette figure qui est apparue là aussi, non pas uniquement pour ce procès des attentats du 13 novembre, mais plus longtemps, depuis 2015, cette figure des présumés morts. Donc on juge en France effectivement des personnes qui sont parties en Syrie, qui ont combattu là-bas, qui ont pu être investies aussi dans des actions qui ont été commises en France. Et jusqu'au moment où on a des preuves, des informations sur leur mort, mais il n'y a pas une forme de certitude pour les autorités françaises. Et donc on décide de les juger tout de même en leur absence. Et on parle alors des procès des présumés morts, que l'on condamne très globalement et quasi systématiquement au maximum des peines qui sont permises.
Arrêtons-nous sur les avocats de la défense. Ils seront beaucoup moins nombreux que les avocats des parties civiles, hein, forcément. L'avocate de Salah Abdeslam, elle est très jeune, elle n'a que 31 ans, mais elle a déjà exercé dans plusieurs procès de terroristes. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, qu'il l'a choisie. C'est le cas souvent, maintenant, s'il y a une expérience, ce sont les mêmes, au fond, que vous, à chaque fois que vous retournez dans un procès terroriste, et je l'ai dit, vous avez assisté à plus de 150, vous retombez sur les mêmes professionnels, au fond.
C'est effectivement là aussi le résultat de cette histoire depuis 2015 et de cette augmentation des procès. Les juges, les avocats généraux du parquet national antiterroriste, mais aussi les avocats de la défense et les avocats des parties civiles, ont construit une expérience. Finalement, on a un groupe qui aujourd'hui arrive, pour beaucoup dans ce procès des attentats du 13 novembre, qui ont déjà une expérience de 2, 3, 4, 5 ans hein, de procédures antiterroristes, de procès, parfois très médiatiques, parfois des procès du quotidien que personne ne connaît, et qui vont alors construire une sorte de spécialisation et puis une approche particulière. On a des avocats et avocates de la défense qui vont construire une approche très loin de celle que l'on qualifie de défense de rupture de Jacques Vergès, un peu médiatique, qui était une marque des procès dits terroristes dans les années 80, les débuts des années 90. Progressivement, cela s'est transformé et aujourd'hui, on a des défenses qui veulent avant tout interroger finalement la procédure, la question de la place de leurs clients, parce qu'on a des accusations d'associations de malfaiteurs terroristes et dans un groupe, il y a des individualisations, des condamnations qui est importante. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à faire comprendre et également pour les avocats vis-à-vis des magistrats.
Petite question qui va vous paraître triviale, mais comment sont rétribués tous ces avocats? Parce que ce procès va durer 9 mois, on n'est pas censé être là tout le temps quand on est un avocat des parties civiles, mais quand on est un avocat de la défense, ça prend énormément de temps. Alors, les avocats des parties civiles, tout ça est réglé par l'aide juridictionnelle, c'est l'État hein, qui vient à votre secours quand vous êtes victime d'un attentat et qui va payer vos avocats, mais pour la défense?
Alors, pour la défense, c'est aussi l'aide juridictionnelle. Il y a des personnes accusées qui payent leurs avocats elles-mêmes. Et puis, globalement, généralement, surtout dans ces grands procès-là, c'est l'aide juridictionnelle. Donc, il y a eu tout un enjeu aussi autour de la reconnaissance de l'aide juridictionnelle pour ces avocats de la défense qui allaient être mobilisés pendant 9 mois, à peu près 2 avocats par accusé, ce qui est extrêmement compliqué hein, pour ces avocates et ces avocats qui sont souvent jeunes. Pourquoi ils sont jeunes? C'est aussi parce que depuis 2015, mais historiquement également, ce sont des personnes qui viennent de la conférence du stage de Paris et qui finalement sont responsables de ces aides juridictionnelles.
La conférence du stage, il faut savoir
que
c'est
une sorte de,
d'élite de l'éloquence.
Voilà, d'éloquence hein, qui permet à des jeunes avocates et avocats, finalement pendant un an, de pouvoir travailler au sein du palais de justice de Paris et d'être accessible à l'aide juridictionnelle. Donc ça, c'est très important parce que c'est des parcours aussi pour ces avocates et ces avocats particuliers qui va expliquer leur manière d'intervenir et la manière dont ils vont construire leur défense.
Alors, vous l'avez dit, les magistrats, les 5 magistrats sont également des professionnels qui composeront cette cour d'assises. Il y aura 3 avocats généraux du parquet antiterroriste. Au fond, c'est vraiment une justice spécialisée aujourd'hui.
C'est ce qu'on appelle une justice spécialisée depuis les années 80. Auparavant, on parlait d'une justice d'exception quand il y avait la Cour de sûreté de l'État qui jugeait les membres des groupes ayant fait des attentats comme l'OAS, etc.
Ça a été aboli par François
Mitterrand.
Ça a été
aboli en 1981 et c'est progressivement construit au cours des années 80 et de l'expérience des procès. Aussi, on a eu des grands procès à la Cour d'appel de Paris, d'Action directe, des groupes moyen-orientaux qui étaient extrêmement médiatisés. Et progressivement, s'est construit ce que l'on va appeler une spécialisation de la justice antiterroriste avec des magistrats spécialisés à la fois dans l'accusation, à la fois dans les instructions, c'est-à-dire les enquêtes. Et puis aujourd'hui, dans les cours d'assises, parce que ces magistrats, eh bien, ils ont jugé depuis 2015 de très nombreux procès. Et donc, ils ont construit, eux aussi, cette spécialisation.
Et il n'y a plus de jury, hein, parce qu'en 81, on avait réinstallé des jurés, tout simplement.
Le principe de rupture avec la justice d'exception des années 60, des années 70, c'était justement de réintroduire le jury populaire au début des années 80. Et puis progressivement, dans la logique, là aussi, d'un procès particulier à la Cour d'appel de Paris, des membres d'Action Directe qui menacent directement les membres de la Cour d'assises, mais aussi les journalistes, eh bien, le jury populaire décide le lendemain de ne plus siéger. Il y a donc là, de la part des autorités judiciaires, la volonté de respécialiser en mettant uniquement des magistrats professionnels.
Dernière question, Antoine Mégy, il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on attend d'un grand procès comme celui-là, à votre avis, vous qui en avez l'expérience maintenant?
Tout va dépendre de qui on parle. Finalement, les parties civiles vont attendre quelque chose. L'opinion publique va attendre quelque chose. Les magistrats, eux, sont dans un travail où leur objectif est parfois très différent. Nous, en tant que chercheurs, on va attendre d'observer finalement un moment assez inédit qui va être enregistré pour l'histoire. Et l'idée, c'est aussi de le faire comprendre plus globalement par la suite, au-delà du moment médiatique très intense, faire comprendre ce qui s'est passé dans ce procès. Donc, ça sera après à la société de voir comment elle traite ce procès, comment elle le construit comme une mémoire de son histoire.
Merci Antoine Mégy d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, philosophe et vous avez refait le long voyage de montagne en 1580 sous le règne du roi Henri II. Vous avez parcouru 2500 km à cheval en suivant son itinéraire, en passant par le Périgord, le Limousin, la Creuse, le Berry, la Champagne, les Vosges, la Bavière. Tout ça jusqu'à Rome, cela vous a pris 5 mois. Vous en avez tiré un livre de 550 pages intitulé « Notre vagabonde liberté » qui paraît aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre très mouvementé.
C'était un voyage très mouvementé. C'était d'ailleurs le principe de ce voyage parce que quand on entreprend aujourd'hui de gambader à cheval sur des territoires aussi différents, on ne peut rien prévoir. Et on retrouve finalement à deux pas de chez soi dans un monde qui est quand même tellement normé, tellement prévisible, où vous pouvez tout trouver sur Google Maps en 2 secondes, on retrouve le sens de l'aventure, des incidents, de l'aléa, des choses qui ne se passent pas, qui se passent mal, des moments où il faut rester une semaine, des moments où on ne peut pas dormir, où il faut continuer sa route, des moments où on est accueilli par des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs. Et donc, c'était un peu le but de retrouver du mouvement, en fait.
C'est une grande mode chez les jeunes écrivains français, pas seulement jeunes d'ailleurs, c'est de se mettre à la place de gens célèbres pour raconter, pour faire des romans. Vous auriez pu abandonner vos enfants à l'assistance publique comme Jean-Jacques Rousseau ou prendre 1 gramme de cocaïne par jour comme Freud. Pourquoi vous avez choisi d'imiter Montaigne en faisant 2500 km à cheval?
À force d'écrire et de réfléchir sur la liberté, je pense que le moment était venu de l'expérimenter moi-même. Et c'est une expérience de liberté intérieure, d'ailleurs, qui se réclame un peu du stoïcisme, philosophie dans laquelle se reconnaissait Montaigne. Et Montaigne, il part un peu pour les mêmes raisons, il part pour fuir, il le dit, hein, je sais ce que je fuis, je ne sais pas ce que je cherche. Il fuit et en même temps, il va à la rencontre.
Il fuit son époque, mais il faut dire son époque, c'est les épidémies, les guerres de religion.
Et il fuit aussi, alors ce qui n'était naturellement pas mon cas, ce qu'il appelle les épines domestiques. Enfin, en tout cas, il avait envie de voir du pays, à l'époque des guerres de religion notamment, d'aller voir ce qui se passait du côté des protestants, donc en Allemagne, à Mulhouse, et de rapporter tout ça à Rome, tout entremêlé d'une mission diplomatique pas très claire. Et donc, il nous donne un itinéraire, Montaigne, et il nous donne surtout, et c'est pour ça que je l'ai suivi, une méthode. D'abord, le cheval, pour lui, ce n'est pas seulement un moyen de transport, ce qui est assez rare à l'époque. C'est un des premiers à parler de l'animal comme d'un être avec lequel une communication est possible. Et il y a des pages des essais dans l'Apologie de Raymond Sebon qui font figure de précurseuses pour les antispécistes comme Peter Singer, qui essaye de briser la frontière entre l'homme et l'animal. Et aussi une méthode de route. Parce que c'est quelqu'un qui fait constamment des détours. D'ailleurs, ses compagnons de voyage se plaignent qu'à un moment donné, il revient sur ses pas. Puis finalement, il veut partir en Pologne. Puis finalement, il prend Verlaise.
Oui, ça lui avait pris 17 mois, hein, si je me souviens bien.
Alors 17 mois, en fait, parce qu'ensuite, il arrive à Rome et puis il refait beaucoup de parcours à l'intérieur de l'Italie. Il allait beaucoup plus vite que moi, hein, à cheval, parce qu'à l'époque, il y avait des relais de poste. Et donc, il faisait une étape.
Il changeait de monture.
Il changeait de monture, voilà, tous les jours, que moi, je devais ménager la mienne. Et donc, il faisait en une étape ce que je faisais en 3. Mais enfin, il parle beaucoup du voyage et du fait que le voyage n'a d'intérêt que si on se transforme soi-même et que si on essaye de s'intégrer aux cultures qu'on traverse. Montaigne, en quelques mois en Italie, il apprend l'italien à tel point qu'il finit d'écrire son journal de voyage dans un italien très imparfait, Alors, j'en suis évidemment pas arrivé là. Je suis moins doué que Montaigne, mais je me suis astreint, par exemple, en traversant l'Allemagne et l'Italie, à ne jamais parler anglais. Et donc, à faire ce que je pouvais pour m'intégrer tant bien que mal, avec des notions assez rudimentaires ou scolaires des deux langues, à la population. Et voilà, ça, c'est une manière de voyager qu'il enseigne et qui est très riche et qui est toujours très contemporaine.
Vous avez fait à peu près 25 km par jour, hein, 6 à 8 heures de voyage par jour à 5 ou 6 km heure, un peu plus que quand on marche. Au fond, vous avez fait l'expérience de la lenteur.
Oui, en tout cas, j'ai fait plus que de la lenteur, l'expérience d'un temps qui n'est plus calculé. Et au début, vous voyez, je me suis beaucoup demandé pourquoi je ne m'ennuyais pas. Pourquoi on s'ennuie dans le métro alors qu'on a 7 stations à parcourir et qu'on peut se mettre plein de sollicitations dans l'esprit des différents réseaux sociaux, médias, etc. Et on s'ennuie. Pourquoi on s'ennuie? Parce qu'on a un but, finalement. Le but, c'est d'arriver. Et donc, tout ce qui est entre nous et le but, c'est de l'ennui. Et si on voyage en se disant, tiens, il faut absolument que j'arrive à 15 heures à l'étape, eh ben, on va s'ennuyer pendant 6 ou 7 heures. Et il y a un moment donné où on change d'état d'esprit et où on se met à apprécier la route pour elle-même. D'ailleurs, Montaigne disait très bien, on ne s'ennuie qu'en ligne droite. Pourquoi ? Parce que dans la ligne droite, on voit le point d'arrivée et donc on se dit, chaque pas est un pas de perdu par rapport à l'arrivée. Alors que quand vous êtes dans des routes sinueuses, quand vous êtes en forêt, eh bien, chaque pas est un pas en lui-même. Et donc, au fond, plus que la lenteur, vous apprenez à jouir du moment présent, qui est aussi une des grandes leçons des stoïciens.
C'est donc un bon moyen de sortir des sentiers battus. On fait quelque chose qui nous était inconnu quand on se lance dans un périple pareil. On vit hors la loi aussi, vous l'expliquez, puisque la plupart du temps, rien n'est prévu. Vous êtes hors la loi. La loi n'a rien prévu pour les cavaliers.
Alors c'est ça qui est très agréable. C'est comme il y a des gens qui font ce genre de voyage, puisque je suis tombé dans ce monde de randonneurs à cheval. Et il y a même une association qui est l'association des cavaliers au long cours, où les gens se refilent les trucs et astuces, et vous avez une bonne centaine de foudingues en France qui ont le voyage à cheval quasiment comme mode de vie, et qui sont tous doucement anarchistes, et qui sont des gens assez merveilleux. Certains m'ont rejoint d'ailleurs sur mon parcours, et beaucoup font des parcours encore plus complexes, en allant jusqu'en Iran, en passant des frontières, en se faisant emprisonner, en perdant des chevaux, enfin, à côté de ce qu'ils font, ce que j'ai fait moi était une promenade de santé. Mais effectivement, c'est très agréable. En fait, on est hors la loi parce que la loi ne prévoit rien. C'est-à-dire que n'importe qui, sans assurance, sans permis, sans casque, sans rien, peut prendre un cheval, se mettre à cru sur son cheval avec une ficelle en guise de mort et emprunter les nationales, se balader partout en France. C'est légal, le cheval est considéré comme un véhicule. Et comme effectivement très peu de gens le pratiquent, le législateur n'a pas encore pensé à réguler cette activité. Et donc vous faites ce que vous voulez. Sur la route, vous êtes véhicule. Sur le trottoir, vous êtes meneur d'animal. Donc vous passez un peu partout et vous avez l'impression de vous glisser dans les interstices d'une société où tout est évidemment très régulé. Et c'est pareil pour le rapport à autrui. C'est-à-dire que pour me loger le soir, eh bien je logeais la plupart du temps chez l'habitant. Il fallait trouver quelqu'un qui... puisse loger le cheval, quelqu'un qui puisse me donner un bout de canapé. Et tout ça se fait comme ça, par le sourire, le dialogue, sans avoir à montrer ses papiers, à rentrer un code. Et donc on retrouve une forme de vraie simplicité qui est toujours présente, il suffit de la susciter en fait.
On fait une pause, Gaspard Koenig, et on continue juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Gaspard Koenig refait le voyage de Montaigne. Il avait 47 ans à l'époque, en 1580. Il était allé jusqu'à Rome, 2500 km à cheval. Ils étaient plusieurs, hein. Il y avait des hommes d'armes avec lui. C'était moins sûr qu'aujourd'hui. Vous étiez seul. Qu'avez-vous découvert ?
J'ai découvert d'abord une incroyable solidarité que l'anthropologue David Graeber appelle le communisme de tous les jours. C'est-à-dire que quand vous avancez et que vous êtes démuni, en difficulté, vulnérable, ce qui est toujours le cas du cavalier, parce qu'il lui manque toujours quelque chose, il y a toujours un problème, il cherche toujours un gîte ou le cheval a eu un incident, un accident. Enfin bon, donc on est toujours en fait à parler aux gens pour demander leur aide. Et on s'aperçoit de manière assez miraculeuse que cette aide, eh bien, elle advient et que les gens vous ouvrent leur maison, leur réseau, leur table et se montrent d'une grande générosité. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a surpris, enfin, en tout cas, auquel je n'étais pas habitué dans un univers toujours très transactionnel.
Vous pensiez que l'homme était un loup pour l'homme?
En tout cas, je demandais à voir. C'est un peu pour ça que j'ai entrepris ce voyage, mais j'ai été quand même très agréablement surpris. J'ai aussi découvert que les gens s'identifiaient toujours très fortement avec leur région, mais je dirais même au sens des régions d'ancien régime. Quand j'arrivais le soir à l'étape, je demandais toujours à mes hôtes « Où suis-je ?» Et on ne me répondait jamais par le nom ou le numéro du département, mais par le nom de la région, de la vieille région historique. Vous êtes dans le Berry, vous êtes dans la Brie, vous êtes dans la Champagne-Pouilleuse, vous êtes dans la Vosges, ne pas confondre avec les Vosges. Et c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que toutes les structures administratives jacobines, y compris celles qui datent déjà de siècles maintenant, ne sont en fait pas tellement incrustées dans les territoires, qui gardent leur vie, leur accent, leur paysage. Et quand on passe d'une de ces régions à l'autre, on se rend compte physiquement, surtout au rythme du pas, qu'on bascule dans un autre pays, comme on disait à l'époque, que tout change, les odeurs, les couleurs, les tuiles, les architectures. Et donc, traverser toutes ces identités, c'est aussi se rappeler que la France n'est pas un pays si unifié, si vertical, et qu'elle a toute cette densité, cette diversité. La France et aussi l'Allemagne, d'ailleurs, ou l'Italie, que j'ai traversé, où j'ai trouvé la même chose.
Vous parlez aussi de ces montagnes qui employaient cette expression, la communication d'autrui. Ça consiste à interroger les gens, non pas sur ce qui vous intéresse, vous, mais sur ce que eux, ils connaissent le mieux.
Tout à fait. Si j'arrive le soir et que je commence à parler du revenu universel, on ne va pas aller très loin.
Donc, il faut rappeler que le revenu universel, c'est un de vos dadas.
Voilà.
C'est un de vos dadas.
Dada, voilà, c'est le cas de le dire. Je demandais aux gens ce qu'ils font, comment ils vivent au quotidien, si c'est la saison de la moisson, si elle est en avance, si elle est en retard, parce qu'évidemment, je tombais aussi beaucoup dans le monde paysan. Et c'est comme ça un peu qu'on commence à tirer les fils et que peu à peu, on récolte des informations. Et je pense que la mauvaise méthode pour parler aux gens, c'est d'arriver avec des questions toutes faites et de leur demander est-ce que vous sentez que vous êtes abandonné, par exemple. C'est le grand truc des sociologues. Hein. Les gens disent, je n'avais pas pensé à cette question, je ne me sens pas abandonné dans ma vie de tous les jours, je la vis. Mais bon, puisque vous me posez la question, oui, je suis abandonné. Puis après, ça nous donne des sondages. 80% des gens sont abandonnés, c'est la France périphérique. Mais les gens ne se sentent pas du tout ni abandonnés, ni dans la France périphérique. Ils ont des difficultés, mais ils vivent leur vie. Et ces difficultés, d'ailleurs, au fur et à mesure de mes rencontres, j'arrivais à mieux les identifier. Et c'est vrai qu'il y a un thème politique qui est apparu, mais tout seul, si je puis dire, sans que je le suscite, c'est que chacun dans son secteur, dans son activité, est paralysé, frustré, par une de dizaines de normes réglementaires qui n'est plus capable de maîtriser, de comprendre, de s'approprier.
Vous êtes sûr, Gaspard Koenig, ça n'est pas le libéral en vous là, qui tout à coup a entendu ce qu'il avait envie d'entendre ?
Il y a plein de choses que j'ai pas entendues. Personne ne m'a jamais parlé du gouvernement, de Macron, des questions politiques, d'insécurité, d'immigration, de tout ça. Mais ça, c'est revenu de manière tellement récurrente. Alors peut-être que je suis évidemment sensible à ce genre de propos, mais quelque part, c'est la traduction assez logique sur le territoire de ce que par ailleurs dénonce le Conseil d'État quand il parle d'inflation normative et quand il recense la croissance galopante de nos textes. Et le fait que les gens se sentent, et ça, c'est je crois, assez indiscutable quand on se balade un peu sur le territoire, se sentent complètement prisonniers de ce que Max Weber appelait cette cage d'acier où tout rapport à autrui, toute activité professionnelle, toute initiative est médiée par toute une avalanche de normes qu'on ne maîtrise plus et qui n'ont plus de sens, en fait, sur le terrain.
Vous avez découvert aussi, j'imagine, le dépouillement. Vous voyagez léger quand vous voyagez à cheval.
Oui, alors un dépouillement matériel, parce qu'effectivement, j'avais 10 kilos de bagages. J'avais même coupé mes couverts pour qu'ils soient le moins lourds possible. Donc, c'était devenu des couverts de dinette. Et puis, peu à peu, je les ai abandonnés parce que je me suis aperçu qu'avec un couteau et des mains, on y arrivait aussi très bien. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Rome, il ne me restait plus grand-chose et que rien ne m'a manqué. Mais c'était aussi un dépouillement affectif, parce que j'étais loin des miens, et un dépouillement quasiment intellectuel, puisque j'ai très peu lu, je n'ai pas consulté les informations. Et on se retrouve un peu dans sa coquille, dans ce que Montaigne appelle son arrière-boutique. Et je trouve ça, surtout dans des temps un peu compliqués, c'est un immense vecteur de liberté de trouver cette arrière-boutique parce que du coup, on ne dépend plus tellement des circonstances extérieures. On arrive à trouver ce point d'équilibre où on est content avec soi-même. Et alors, ça permet ensuite de revenir, bien sûr, dans la société. Hein, et Montaigne était tout sauf un ermite et d'y être très engagé, et de participer à tous les débats. Mais enfin, on sait qu'on a ça derrière soi, qu'on peut le retrouver, qu'on peut y repartir, qu'on en a trouvé la clé. Et je pense que ça donne une certaine force.
Dernière question, est-ce que ce voyage vous a transformé vous-même? Puisque c'était ça aussi, l'un des buts de Voyage de montagne.
Il m'a fait découvrir ce sens de cette forme de solipsisme, de plénitude en tout cas dans le solipsisme, que je pressentais mais que je n'avais jamais expérimenté. Et puis, il a changé quand même un certain nombre de mes idées, y compris de mes idées politiques, parce que sur, je sais pas moi, la division du travail, sur l'aménagement du territoire, sur même la libéralisation des centres commerciaux, sur beaucoup de choses, c'est un peu ma démarche de manière générale, mais le contact du terrain fait réfléchir et m'amène à infléchir ou à approfondir un certain nombre de mes idées ou de mes convictions. Et puis, quelque part, surtout, il m'a vraiment fait rencontrer les gens de manière très pure. Et je pense qu'on en a assez peu l'occasion, parce que le voyage à cheval, enfin en tout cas le statut de voyageur, de vagabond, comme le disaient parfois les gens, met immédiatement sur un pied d'égalité. Et ça forme des camaraderies, des amitiés très fugaces, mais aussi très fortes, qu'on n'a pas forcément l'occasion de constituer quand on reste dans ses cercles habituels, dans son milieu socio-professionnel habituel. Et ça m'a quand même permis d'élargir considérablement ma perspective sur les Français, tout simplement.
Notre vagabond de liberté, c'est signé Gaspard Koenig. Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci Gaspard.
Merci.
On se retrouve dans un instant avec Marilyn Martin. On va parler de Georges Brassens, que vous citez d'ailleurs dans votre livre à plusieurs reprises.
Que j'aurais dû fredonner même sur mes chemins.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On va beaucoup parler de Georges Brassens au mois d'octobre. Ce sera en effet le centenaire de sa naissance et le 40e anniversaire de sa mort, le 29 octobre 1981, à l'âge de 60 ans. Eh bien, on ouvre le feu dès maintenant sur Europe 1, qui était sa station de radio préférée. Marilyn Martin, vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Bien oui, en 1955, Georges Brassens va chanter Le Gorille et c'est grâce à Europe 1 qu'il va pouvoir s'exprimer sur les ondes qui émettent dans la Sarre, puisqu'il est interdit de radio.
Et c'est la naissance d'Europe 1, ça, quand
même. Et c'est la naissance d'Europe 1. Et il se murmure même que Tante Yvonne ne supporte pas le chanteur et que le général l'écoute en secret à l'Élysée.
Oui, ça, ce sera plus tard. C'est quand il sera de retour. Mais c'est vrai qu'au départ, on ne passait pas les disques de Brassens, qui était considéré, je parle sur la radio nationale, il était considéré comme un pornographe. Hein.
Complètement.
Alors, il n'est pas du tout pornographe dans votre livre, Marilyn Martin. Vous publiez Brassens, Jeanne et Joa aux éditions du Rocher. C'est pas tout à fait une biographie du chanteur dont près de 150 établissements scolaires aujourd'hui portent le nom. Hein. C'est plutôt une carte du tendre. Jeanne et Joa, ce sont les deux grandes amours de sa vie qui lui ont inspiré nombre de chansons.
Complètement. Moi, j'ai pas voulu faire une énième biographie. Je trouvais pas l'intérêt. J'ai souhaité l'accompagner tout au long de son chemin, dans les dernières années de sa vie, et évoquer effectivement les deux femmes qui ont compté dans sa vie, dans sa carte du tendre, effectivement, Jeanne et Joa. Mais je n'oublie pas non plus Patachou.
Et on pourrait ne pas oublier non plus Les Passantes, puisqu'il les a chantées, Les Passantes. On en écoute un court extrait.
À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit. Mais dans la svelte silhouette.
Marilyn Martin, Jeanne, il la rencontre quand il a 19 ans. Oui. Il vient à Paris vivre chez sa tante. Alors, faites-nous un petit portrait de Brassens à ce moment-là. Brassens a 19 ans. Mmh. Il a eu quelques ennuis avec la police à 7 ans. Il a dû s'expatrier.
Effectivement, il quitte 7 pour une sombre affaire de bijoux volés. Il n'était pas à l'origine du vol. Il était juste là en train de faire le guet. Mais ça jette l'opprobre sur la famille Brassens. Donc, il part à Paris chez cette Antoinette qu'il connaissait déjà. Mais la Antoinette, elle lui fait un deal. Elle lui dit « Écoute, moi, je t'accueille, mais il va falloir travailler. » Et en attendant de trouver des petits boulots comme relieur, il a travaillé aux usines Renault, justement, il va rencontrer Jeanne. Jeanne, c'est la couturière de Toinette.
Et, c'est la voisine. Hein.
C'est la voisine. Elle habite Impasse Lorimont. Toinette, elle habite rue d'Alésia. On n'a qu'à traverser la rue d'Alésia pour aller à Impasse Lorimont. Et Georges, il est beau, il ressemble, il a une petite moustache à la Clark Gable. C'est un beau gosse, comme on dirait maintenant. Et Jeanne, elle a 30 ans de plus. Alors, c'est une cougar, hein, on ne disait pas autrefois, mais et tous les deux, ça fait tilt, ça matche bien. Parce que lui, il a déjà ce petit grain de fantaisie, il est un peu swing, il aime bien le jazz, le swing. Et Jeanne, c'est pareil, elle a un petit grain de folie qui lui plaît bien. D'ailleurs, il disait souvent « Jeanne, elle est folle », mais pas folle au sens premier du terme. C'est parce qu'elle ne marche pas dans les clous. Elle a ce grain de fantaisie qui lui fait bien.
Elle est mariée d'ailleurs. Hein.
Elle est mariée avec un... Alors, elle vit à la colle d'abord, comme on dit à l'époque. Elle vit à la colle avec Marcel Planche. Elle se mariera pendant que Georges sera au STO. Mais ces deux-là, ils se sont trouvés, hein, ces deux âmes solitaires... Voilà, et Marcel, il est un peu, lui aussi un peu borderline, hors les clous, il est carrossier, mais il a un petit penchant pour la bouteille, donc il rentre souvent éméché à l'impasse Lorimont. Donc tous les deux, c'est deux solitudes qui se sont trouvées, mais elle n'est pas vraiment amoureuse de Marcel.
Non, mais elle est vraiment amoureuse de Brassens. En 1944, il fait le service du travail obligatoire en Allemagne, mais il profite d'une permission pour ne pas y retourner. Il refuse également de rejoindre la résistance. C'est un pacifiste, oui. Brassens. Et donc, il décide de se cacher, et c'est Jeanne qui va l'héberger. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il refusera toujours de la quitter. Au fond, il s'installe chez elle en 1944. Il n'en repartira jamais. Le Georges Brassens, la star énorme que la France adore à partir des années 50, mais surtout 60, il habite toujours chez Jeanne.
Bah, il habite, oui, effectivement, pendant 22 ans. Il ne va pas quitter l'impasse Lorimont. Alors, l'impasse Lorimont, il faut savoir qu'en 44, c'est un îlot d'insalubrité. Hein. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité. Il fait sa toilette dans une cour, dénuée voilà, de toute... C'est pas très propre. Hein. Il y a les eaux usées qui sont dans la rigole, dans les pavés. Lui, il habite au rez-de-chaussée de cette mansarde. Jeanne, elle est à l'étage. Bon, il vient la rejoindre de temps en temps. Mais Marcel, lui, vit dans un appentis où se trouve aussi la canne, la fameuse canne de la chanson, la canne de Jeanne. Et tout ce petit monde s'acclimate très bien. D'ailleurs, il le dit, hein, il a le sens de l'inconfort, Brassens. Et puis, il disait aussi, si je la quitte, je la tue.
Oui, c'est ça. Il ne la quittera jamais. Elle est sa première fan. Elle l'aime tendrement. Elle est sa première fan. Elle est certaine de son talent, ce qui devait compter beaucoup pour l'apprenti artiste qu'il était. Et en même temps, entre-temps, il a rencontré en 1947 l'autre amour de sa vie, c'est Joa, qui surnomme Pupchen. C'est une Estonienne, mariée elle aussi, et mère d'un petit garçon. Vous dites qu'il préfère l'amour dans l'adultère.
Bah oui, en fait, ça l'arrange bien, Georges. Il dit souvent qu'il préfère aller chercher les pommes, cueillir les pommes dans le champ du voisin. Et puis Georges Brassens, il n'a pas envie d'enfant. Il est pas...
Non, elle tombe enceinte d'ailleurs très vite, Joa, et elle lui demande s'il veut le garder, il dit non.
Non, mais par contre, il lui dit de toutes les façons, on est crainte, je ne chercherai pas à avoir d'autres enfants. Lui, ses enfants, ce sont ses chansons. Il se consacre tout à fait à son homme. Et puis il dit souvent, Joa, lorsqu'il la rencontre, il dit « je l'aime comme une plainte ». Voilà, et c'est vrai, c'est l'amour de sa vie jusqu'à la note finale, ils ne se quitteront pas. Et d'ailleurs, dans un dernier souffle, il lui demandera sa main et elle refusera parce qu'elle ne voulait pas profiter peut-être de cet espace de fragilité pour lui dire oui. Et Joa aussi sera l'inspiratrice de belles chansons, hein, comme La non-demande en mariage, voilà, Saturne aussi, qui est un dieu bien inquiétant, hein, qui est à l'épreuve qui met à l'épreuve du temps. Voilà.
La non-demande en mariage, extrait.
Il peut sembler de tout repos que de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature.
Si l'on vous comprend bien, Marilyn Martin, Georges Brassens ne quitte jamais personne. Et à chaque fois, c'est pour la vie, puisqu'avec Pupchen, ça durera jusqu'à sa mort. Mais ils ne vivront jamais ensemble, hein, même quand elle aura divorcé, qu'il n'aura plus pour Jeanne que de la tendresse. Est-ce qu'elles étaient jalouses l'une de l'autre?
Eh ben, elles ne se sont jamais rencontrées. En fait, elles se rencontrent dans mon livre. Elles cohabitent dans mon livre. Non, l'une et l'autre savaient qu'elles existaient, mais elles ne voulaient pas en entendre parler. Jeanne, elle l'a surnommée Joa, petit pot à tabac. Elle était jalouse. Jeanne, c'était devenu la mère universelle. Hein. L'amour s'était transformé en un amour filial. Et Joa, lorsqu'elle a su que Jeanne était morte, elle dit à Brassens qui rentre de l'hôpital là où repose le corps de Jeanne, elle est bien morte. Et Georges Brassens lui répond, bien écoute, si elle l'est pas, c'est bien imité.
En 1952, c'est l'année de sa révélation en tant que chanteur. Son talent explose littéralement. Hein. Tout le monde est sur les est à genoux devant lui. Et une femme va beaucoup y contribuer, c'est Patachou, qui est une chanteuse très connue à l'époque, qui enregistre les premières chansons de Brassens et qui l'emmène avec elle en tournée. Ils ont une histoire d'amour. Oui. Comment réagissent Jeanne et Joa à ce moment-là ?
Mal, mais elles ne disent rien, puisque de toute façon, elles savent que Brassens est un homme libre. Elles ne veulent pas l'entraver, donc elles vont mordre sur leur chic. Joa ne peut rien faire, puisqu'elle n'est pas divorcée. Et de toute façon, elle sait très bien qu'elle ne pourra rien empêcher. Donc, elle va attendre. Et c'est l'histoire aussi du sablier que Georges va offrir à Patachou. Il va lui dire « Quand tu vas retourner, tu m'aimes ». Tu pars parce que Patachou a des velléités de partir aux États-Unis. Elle va faire une tournée en Amérique. Et il lui offre un sablier. Il lui dit, quand tu auras fini de retourner ce sablier, c'est que notre amour sera fini. Et effectivement, le temps joue pour Joa. Il va rentrer. Elle va le faire un petit peu lanterner. Hein, c'est une femme, elle a raison. Et ils se retrouveront.
Alors, il faut savoir qu'il était entouré d'admiratrices, hein, Brassens. Oui. C'était un véritable sex symbole dans les années 50. Il était très sollicité. Que quand il va commencer à gagner de l'argent, les premiers à en profiter, ça va être Jeanne et son mari. Il va mettre tout à coup la lumière, l'eau,
mais pas le téléphone
dans l'impasse Florimond. Enfin, tout ça est formidablement bien raconté dans votre livre. Ça s'intitule « Georges, Jeanne et Joa ». Ça vient de paraître aux éditions du Rocher. Et on parlera beaucoup, évidemment, de Georges Brassens dans les semaines qui viennent. Merci Marilyn Martin d'être venue en direct sur Europe 1.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques instants, vous allez retrouver le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Sonia Mackbrook. Quelle est votre invitée, Sonia ?
Bonjour Frédéric, mon invité du grand rendez-vous sera Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Et pour l'interroger, je serai entourée de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Merci, bonne émission.
Europe 1.